RMC.
After Lyon. Le podcast Gilbert Bribois.
Chers supporters d'Ali Sissoko et de Corentin Tolisso, bienvenue dans le podcast After Lyon. 15 minutes de débat consacré à l'actu de l'OL avec aujourd'hui coach Courbis. Roland, bonjour.
Salut les amis.
Et avec Edouard G qui est dans la région lyonnaise, mais aussi stéphanoise, il prépare le derby. Salut Edouard.
Oui, salut. Du coup, je suis à Givor hein, tout au long de la semaine avant le 124e derby. Salut Gilbert, salut coach. Et tu parles de Coco Tolisso parce qu'il a marqué un super but avec le Bayern ce week-end, sûrement.
Par exemple.
Sur une passe de Thomas Müller.
Alors qu'Ali Sissoko, on n'a pas de nouvelles. Alors, évidemment, l'évaluation après le match à 3 et puis des débats comme toutes les semaines. Jean-Michel Aulas a-t-il remis le feu au club avec sa récente interview? On va en parler. Et puis, on va évidemment parler du derby qui arrive. C'est vendredi. Nouveau derby donc entre Lyonnais et Stéphanois. C'est tout de suite dans le podcast After Lyon. Edouard, ton taulier à 3, c'était qui?
Maxence Cacré.
Attends, faut qu'on s'habitue. Jingle taulier.
Les bolides sont du côté de Lyon.
Voilà. Donc, c'est Cacré, le bolide.
Voilà, le retour du... Alors, la semaine dernière, je vous ai servi Bruno Guimarães, donc un chouchou brésilien. Mm-hmm. Chouchou Igno, et bien là, je vous fais le chouchou de l'Académie, Maxence Cacré, parce que d'entrée, il a été tranchant, j'ai trouvé. Et puis, sur la fin, il a toujours été présent. C'est des choix justes, soit sur des 1-2, soit sur de la conservation. On se souvient aussi de sa passe à Léo Dubois pour casser des lignes. Franchement, masterclass la semaine dernière de Bruno Guimarães, et puis là, masterclass de Maxence Cacré, puis du début à la fin. Et je trouve qu'il symbolise un petit peu, on en parlera peut-être, le renouveau de Lyon. Donc Maxence Cacré, j'aurais pu mettre Castello Luqueba, parce que c'est vrai que j'ai été sévère la semaine dernière dans le flop. Très sévère.
Vu son âge et tout, et là aussi la marge de progression qu'il peut avoir, je ne serais pas étonné qu'il fasse et qu'il devienne un très 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 bon.
Ouais, et c'est pour ça que la semaine dernière, je m'en suis un petit peu voulu parce que je le compare, moi, vraiment à Samuel Umtiti. Hein, il y a 10 ans, j'en ai déjà parlé. Et je trouvais que la semaine dernière, il avait été moins propre que d'habitude. Alors, j'avais beaucoup mis de guillemets sur le... Voilà, c'est quand même un gamin de 19 ans et il progresse. Mais alors là, franchement... il a enlevé tous les petits défauts qu'on pouvait avoir la semaine dernière. Et quelle certitude dans le jeu, c'est franchement... Castello Luqueba, on en reparlera, magnifique. Mais bon, je reste sur mon Maxence Cacré.
Très bien. Passons donc au boulet.
C'était un guignol.
Ah. c'est caricatural, là, vous l'avez compris. Enfin, t'en as un de boulet, là?
J'ai du mal à ne pas mettre à la fois le réalisme des Lyonnais, qui est absent, mais en termes de joueurs, Oussem Aouar. Parce que franchement, je ne sais pas ce que tu en penses, coach. Mais
C'est-à-dire qu'on en attend tellement que
c'est sûr qu'en
ce moment, il est décevant.
Ouais. J'ai trouvé que c'était tout mou ce qu'il faisait, que ses passes, ses appels, ses décalages, même ses tirs. Voilà, je ne l'ai pas vraiment trouvé dans le match. Et puis, voilà, du coup, il a été remplacé. Je mettais aussi le manque de réalisme, parce qu'on en parlera aussi. Les Lyonnais se sont fait une nouvelle fois peur dans le dernier quart d'heure. Parce que normalement, à la mi-temps, il devait y avoir 2-3-0.
La dernière minute.
Et en plus, la dernière minute.
Ouais. Juste sur Aouar, Roland, on sait qu'il y a des velléités de partir, des clubs qui se renseignent. Ça fait des mois et des mois, en fait, que ça dure, cette histoire.
Ouais.
Bon, j'imagine évidemment que ça va être un peu déstabilisant pour lui, mais... Enfin, je ne sais pas, tu penses quoi de sa situation
Sa situation, il faudrait qu'on se mette d'accord déjà sur l'utilisation d'Aouar. Aouar, pour moi, c'est un... milieu offensif, un meneur de jeu, comme on dirait à une certaine époque, le numéro 10. Donc, Paqueta aussi dans un autre rôle. Bon, ils sont totalement différents. Un est droitier, un est gaucher. Mais dans l'organisation actuelle de Lyon, c'est-à-dire qu'on appelle ça 3-4-3. Donc, Aouar est dans les 3. Donc, dans un 3-4-3, quand tu as l'effectif de Lyon, les 3, c'est 3 vraiment offensifs, pour ne pas dire 3 attaquants. Là, on joue par prudence dans une période compliquée pour tout le monde. Lyon, on n'a pas dramatiser le match, mais un Lyon qui perdait à 3, ben c'était quand même très compliqué pour Peter Bosz notamment. Donc là, tu as Aouar qui est utilisé comme un du trio offensif. Je pense que Aouar, pour moi, ça serait mieux. Et ça n'a pas échappé à Peter Bosz, mais en ce moment, c'est un Peter Bosz prudent que nous avons. Donc, quand par exemple, on aura deux milieux offensifs plus deux attaquants, à ce moment-là, on pourra, pour moi, juger vraiment Aouar. Pour moi, Aouar peut être côté gauche, ce que Paqueta peut être côté droit. Et quand tu as ces deux joueurs-là, plus un Dembélé et un autre, là, à ce moment-là, c'est les adversaires qui vont commencer à avoir des complications. Et c'est sûr que les trois arrières centraux, il faudra enlever un. Les deux milieux récupérateurs, ils se partageront le boulot, mais faire mieux que Caqueret et Guimarães, ce n'est pas évident. Et faire mieux que Paqueta, Guimarães, Caqueret et Aouar, si tu arrives à me trouver, Gilbert, dans toutes les équipes de Ligue 1, un quatuor de milieu aussi bon que celui-là et aussi complémentaire que celui-là, avec Thiago Mendes qui peut rentrer à tout moment...
Sauf que là, les constructions que tu fais, c'est avec les joueurs, enfin, c'est sous-entendu les joueurs à leur top. Or, Aouar, c'est pas toujours le cas, comme l'a dit Edouard.
En ce moment, lui demander d'être pratiquement un attaquant, c'est-à-dire de faire partie du trio offensif de Lyon, je dis pas que c'est ça la solution, mais peut-être on lui en demande un peu trop.
Voilà pour l'évaluation, passons maintenant à Jean-Michel Aulas. Oui, donc longue interview à Europe 1, qui a mis le feu à Lyon ou pas tant que ça, Edouard, là, quand il parle de... quand le cas Laurent Blanc est revenu sur la table.
Non, franchement, là, excusez-moi, mais ça a excité que les journalistes parisiens sur l'affaire. non, mais franchement, Laurent Blanc à Lyon...
C'est pour ça que c'est bien que tu sois avec nous.
Laurent Blanc à Lyon, c'est un serpent de mer depuis je sais pas combien de temps. Faut jamais dire jamais, mais en tout cas, dans l'état actuel de l'OL, je vois pas comment il peut venir. Et dans cette interview, alors l'explication, un petit peu le contexte aussi de cette interview, elle dure 50 minutes, pas sur Laurent Blanc, mais 50 minutes, et nos confrères d'Europe 1 l'ont diffusé samedi, et ils ont diffusé dès jeudi des extraits sortis du contexte.
Ah ouais, d'accord.
Et donc, par exemple, sur l'histoire de Paqueta, parce que ça a mis le feu, vous imaginez, quand vous attaquez Juninho, donc là, Juninho, Pernambucano, là, déjà je prononce le terme, je vais en avoir une rafale sur les réseaux sociaux. Donc, et bien là, il a juste dit que c'est traditionnel. Et il nous l'avait dit en conférence de presse quand Juninho était là, c'est que c'est Juninho qui a choisi et c'est lui qui a payé, qui a signé le chèque. Et en fait, la phrase, elle a été un petit peu, pas détournée, mais sortie du contexte. Et du coup, ça a fait une affaire d'État. Quant à Laurent Blanc, il répond et il rappelle tout ce qu'on avait dit. Souviens-toi du podcast qu'on avait fait le jour où Laurent Blanc avait été, entre guillemets, écarté au profit de Rudy Garcia. On avait dit que Juninho avait choisi parce que Rudy Garcia l'avait regardé pendant les entretiens. Et Laurent Blanc, lui, se référait uniquement à Jean-Michel Aulas et pas à Juninho. Ça, on l'a raconté des fois et des fois. Et en fait, c'est sorti du compte de tout ça. Et tout le monde s'est emparé de Laurent Blanc, etc. Alors c'est vrai que je pense que du côté de l'OL, au niveau des proches, peut-être que certains doivent lui dire non, il faut arrêter de sortir ce genre de choses-là. Il ne faut pas parler de Juninho, il ne faut pas parler de Laurent Blanc. Voilà, donc il y a un petit peu une faute, on va dire, du président d'en avoir reparlé parce qu'il sait très bien que ça va mettre le feu aux poudres. Ouais. Mais bon, mine de rien, il dit que ça ne lui fait pas peur. D'une certaine manière, mais aussi nos confrères qui mettent un petit peu en avant les choses. Voilà, c'est un petit peu le monde médiatique moderne qui fait que des phrases sortent du contexte et après ça affole la toile. Et je peux vous dire que non, voilà, Peter Bosz et le staff, ils sont ils savent très bien ce qu'ils ont à faire sur le terrain et c'est pas ça qui va changer la donne.
Bon, on va l'écouter juste Peter Bosz quand même sur la question.
Non, j'ai pas peur de ça, pas du tout. Et même si on a perdu aujourd'hui, j'étais vendredi l'entraîneur de l'OL. J'ai pas peur de ça, pas du tout. C'est pas dans ma tête, parce que si ça c'est dans ma tête, je suis pas 100% concentré au match d'aujourd'hui.
Au Roland, une tempête dans un verre d'eau.
Oui, bon, maintenant, attention, ça c'est parce que, on est après une victoire, même qui a été difficile, c'est une petite victoire avec trois gros points. Donc si Lyon perdait à 3 contre une équipe de 3 très moyenne, hein, certainement, je ne voyais pas comment ils pourraient faire cette équipe-là pour marquer un but de football sur un terrain de football. Mais bon, ça a failli se faire. Donc le Lyon d'aujourd'hui, c'est un Lyon pas très en confiance, un Lyon prudent dans son organisation, mais la prudence, ce n'est pas non plus un défaut. Et là, le match compliqué, il arrive aussi, même si tous les matchs sont compliqués. Je me suis amusé un petit peu à regarder le calendrier de Lyon. Mais dans les périodes difficiles, n'importe quel adversaire qu'on te donne à ce calendrier, tu fais aïe, ouï, tu fais toujours la grimace. Mais un Saint-Étienne qui n'arrive pas à gagner un match, Lyon qui rencontre Saint-Étienne le match de vendredi soir, est très compliqué. Mais après,
le derby des souffreteux.
Ben ouais, la position de Peter Bosz, ce qu'il dit en disant bon, si on avait perdu, ben je serais là vendredi contre Saint-Étienne, on n'en sait rien.
Moi, cette saison me rappelle étrangement 2015-2016. Vous savez, quand Hubert Fournier est débarqué juste avant Noël et que Bruno Genesio prend le groupe et c'est l'entrée dans le grand stade. Et je regarde, et moi, on m'a toujours dit qu'une équipe, coach, tu ne vas pas me dire le contraire, qui est en manque de confiance, c'est difficile de retricoter toute cette confiance. Et j'ai regardé le calendrier du mois de janvier de cette époque. Les Lyonnais prennent 4 points sur 12. Ils perdent le derby à Saint-Etienne. Ils perdent contre Bastia. Bon, ils gagnent contre 3 le premier match, mais on va dire que c'est pour l'histoire, pour le match dans le nouveau stade. Et derrière, ça commence à se mettre en place au mois de février, 12 points sur 15. Et ensuite, mars-avril, ils déroulent et on arrive sur ce fameux match face à Monaco pour la deuxième place et le 6-1. Donc tout ça pour dire que ça prend du temps de retrouver la confiance. Oui. Et moi, j'ai l'impression que le match d'hier à redonner cette petite pincée de confiance, on l'a vu dans un certain nombre de choses.
Déjà, la victoire, le coup de sifflet, où tu étais habitué d'avoir en plus des coups de marteau dans les 15 dernières minutes, voire même dans les 3 dernières minutes. Là, nous avons eu à 3 un Lyon prudent. Eh bien, tu as gagné un 1-0. Il faut cette confiance, elle est indispensable. Je te donne un exemple. Par exemple, du côté de Bordeaux, quand tu vois la composition d'équipe de Bordeaux, en 4-2-3-1, je me pince en me disant « Non mais attends, ils vont retrouver la confiance comment ?» Et en plus, après chaque match, on te dit « Record de buts encaissés, battus, machin, etc. » Mais tu es obligé de jouer avec un attaquant de moins, un défenseur de plus, et d'essayer de retrouver cette confiance dans une certaine solidité. Si par exemple, on ne se rappelle pas de ce qu'a pu être Lyon, je donne un seul exemple, et comme ça, je n'ai pas besoin de perdre du temps ou de vous en faire perdre. Quand tu as cette équipe de Lyon, avec à la fin, dans les analyses, que le meilleur joueur, c'est ton gardien, comme ça a été souvent le cas, il y a quelque chose qui ne va pas dans la solidité. Et pour avoir justement à nouveau cette confiance, eh bien je trouve que c'est très intelligent d'être passé à trois arrières centraux, avec en plus deux meilleurs récupérateurs devant, des pistons, seulement 3 offensifs et pas 4. Et ça, tu peux le quatrième le mettre en cours de match. Je te donne un exemple. Dans le dernier changement, tu mènes 1-0. Peter Bosz fait un dernier changement qui est un changement qui ne change pas l'équilibre de l'équipe. Tu as toujours une équipe équilibrée, mais plus défensive qu'offensive. Mais si jamais le Peter Bosz actuel, qui est critiqué, qui est un petit peu comme un funambule là, qui avance tout doucement sur le fil, il y a une égalisation de 3 par rapport au changement de Peter Bosz. Dès qu'il y a eu le changement, j'ai dit ouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïou sur le manque de culot de Peter Bosz.
Alors, en sachant qu'au niveau du calendrier et des écarts, j'ai regardé un petit peu. Certes, il y a énormément d'écarts, mais les Lyonnais, de toute façon, ils n'ont pas le droit à l'erreur, hein, quelque part. Sur les 19 matchs qui restent, il faut presque en gagner 12-13. Donc, ça veut dire gagner les adversaires directs. Et juste, tu gagnes contre tes adversaires directs. Hein. De toute façon, tu es sur un fil. Et ben, déjà, au minimum, tu as égalité de Rennes à la 4e place. Donc, rien n'est fichu pour le calendrier, en sachant qu'il reste 19 matchs, en sachant aussi, malheureusement pour les Lyonnais, que le match de Lyon-Marseille va encore laisser des traces, parce qu'on se dirige vers une programmation le 26 janvier ou le 2 février de Lyon-Marseille. Alors, c'est peut-être un détail pour vous, comme dirait l'autre, mais pour l'OL, ça veut dire qu'il n'y aura pas les Brésiliens, Lucas Paqueta et Bruno Guimarães, qui joueront contre l'Équateur et le Paraguay à ce moment-là, les qualifications pour la Coupe du Monde. Donc, nouvelle triple dose de ce match Lyon-Marseille après le huis clos et puis le point en moins.
Absolument.
Merci Edouard, merci.
Un dernier mot, juste par rapport à Emerson, parce qu'il y a beaucoup de rumeurs.
On parle de lui à Chelsea, un retour, ouais.
Voilà, donc clairement, Peter Bosz l'a dit vendredi, il va rester à Lyon. Lui s'interroge aussi, pourquoi pas revenir à Chelsea. Mais clairement, moi, on me fait savoir lui que Emerson sera lyonnais l'année prochaine. Il n'est pas contre de rentrer à Chelsea, il n'est pas contre de rester à Lyon. On va dire, il ne va pas partir à la guerre avec son club auquel il est prêté. Alors, il ne faut jamais dire jamais en matière de transfert et de football. Mais en tout cas, la volonté de Peter Bosz et de l'OL, c'est de le garder et visiblement lui aussi au final va rester.
Merci Edouard, merci Roland.
Salut
prochain
Doudou.
Podcast sur After Lyon la semaine prochaine. Bye bye. RMC.
After Lyon. Le podcast Gilbert Bribois.